Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore une initiative qui s'attaque à un défi bien réel, je trouve.
Ah oui, lequel?
Comment les associations, qui ont souvent peu de moyens, comment elles peuvent vraiment tirer parti du numérique?
C'est vrai que c'est une question centrale pour beaucoup d'entre elles.
Exactement. Et donc, on va parler du réseau cybervolontaire.net. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est leur approche.
C'est-à-dire?
Un engagement très fort pour le logiciel libre, l'open source, et puis une vision des outils en ligne, surtout les outils sociaux, qui se veut radicalement différente de ce qu'on connaît avec les géants du web.
Oui, et c'est justement ce parti pris qui rend leur démarche intéressante à analyser, je pense. On n'est pas juste dans l'aide technique pure.
Non, c'est ça.
Il y a une vraie philosophie derrière sur le rôle de la technologie dans le monde associatif et même social.
Tout à fait. Et pour notre discussion aujourd'hui, on se base sur les informations que le réseau partage lui-même, principalement via son site web.
Oui, l'objectif, c'est de décortiquer un peu leur mission, comment ils la mettent en œuvre concrètement, et puis quel impact ça peut avoir, quoi.
Alors pour commencer peut-être, les origines. Cette idée, elle a une histoire, elle n'est pas née hier.
Non, effectivement, ça remonte à 2003 en fait, lors d'un événement assez marquant pour la gouvernance d'Internet, le premier sommet mondial sur la société de l'information, le SMSI.
À Genève.
Oui, à Genève. Et c'est dans ce contexte de réflexion globale, sur l'accès à l'info, à la technologie, que l'idée a commencé à germer.
D'accord. Donc un contexte assez global, mais pour une action qui se veut très locale, si je comprends bien.
C'est ça. La vision fondatrice, la conviction affichée dès le départ, c'était que la technologie, elle ne devait pas être un nouveau facteur d'exclusion. Au contraire, elle devait être un levier d'inclusion, de développement, spécifiquement pour le monde associatif, même les toutes petites structures.
Donc la mission initiale, c'était vraiment d'accompagner ces organisations de proximité dans leur transition numérique, on pourrait dire.
Exactement. Les aider à s'approprier ces nouveaux outils.
Et c'est là qu'intervient ce choix important de l'open source, dès le début. Pourquoi ce choix, en fait, au-delà de l'aspect coût qui est évident pour les assos?
Alors, d'après ce qu'ils expliquent, ce n'était pas seulement une question de coût, même si c'est crucial, bien sûr. L'open source était surtout vu comme un moyen de garantir des solutions qui soient
Adaptable?
adaptables aux besoins réels.
Oui, et surtout comme un gage d'indépendance technologique, pour éviter d'enfermer les associations dans des systèmes propriétaires, souvent coûteux, peu flexibles.
D'accord, je vois. Ils ont une phrase qui résume ça. Ils disent croire que la technologie doit être un moteur d'inclusion. Et pour eux, l'open source, c'est l'outil parfait pour réaliser cette vision.
C'est une vision claire, posée il y a presque 20 ans maintenant. Comment ça se traduit aujourd'hui en objectifs concrets pour le réseau?
Il y a plusieurs objectifs qui se dégagent, tous liés à cette philosophie de départ. Le premier, c'est ce qu'ils appellent la capacitation.
La capacitation. C'est-à-dire.
En gros, il ne s'agit pas juste de donner des outils, mais de former les gens dans les associations pour qu'ils deviennent plus autonomes, qu'ils sachent utiliser et gérer leur environnement numérique.
D'accord. Développer les compétences.
Voilà. Ensuite, un objectif très concret, la présence en ligne. Les aider à créer des sites web qui soient efficaces.
Et là aussi, l'open source joue un rôle.
Oui, c'est mis en avant comme la solution pour avoir un résultat pro, mais à des coûts maîtrisés, adaptés au budget souvent serré des associations.
Logique.
Troisième objectif, et celui-là est peut-être le plus distinctif, c'est le lien social numérique. L'idée ici, c'est de construire des plateformes en ligne, un peu comme des réseaux sociaux, mais pensées spécifiquement pour des groupes précis. On verra des exemples, hein, avec les seniors, les femmes.
Pour stimuler les échanges, lutter contre l'isolement, c'est ça?
Exactement. Créer des espaces dédiés, sécurisés.
Et c'est là qu'on touche à la grosse différence avec les plateformes commerciales, j'imagine. Qu'est-ce qui rend ces espaces si différents, selon eux?
Alors ça, c'est vraiment un point clé de leur communication. Ils insistent beaucoup là-dessus. Ces plateformes sont développées avec une approche qu'ils disent centrée sur l'humain.
Concrètement, ça veut dire quoi?
Ça se traduit par plusieurs refus, en fait. Premièrement, pas d'algorithme pour trier ou pousser les contenus.
Ah oui, donc pas de bulle de filtre ou de contenu poussé artificiellement.
C'est l'idée. Deuxièmement, pas de profilage systématique des membres. Et troisièmement, point crucial, pas d'exploitation commerciale des données personnelles.
D'accord, ça c'est une rupture nette avec le modèle économique dominant des réseaux sociaux qu'on connaît tous.
Clairement, c'est une posture assumée.
Et ça nous ramène à l'objectif d'accessibilité. Pas juste technique, mais aussi financière. L'open source, peut-être combiné avec du bénévolat ou des coûts réduits, ça rend ces développements possibles pour des petites structures.
Tout à fait. Et le dernier objectif clé, c'est l'accompagnement. Il souligne que c'est important d'offrir un soutien technique qui va plus loin que la simple installation.
C'est-à-dire?
Aide à la mise en place, bien sûr, mais aussi formation des utilisateurs, et puis une assistance sur la durée, pour que les outils restent utiles et fonctionnent bien dans le temps.
Donc si on résume l'ambition, c'est de contribuer à un secteur associatif qui soit numériquement plus autonome, mieux connecté, plus inclusif, où la technologie sert vraiment la mission de l'asso, quoi.
C'est exactement ça. C'est un beau programme, sur le papier.
Oui. Alors comment ils s'y prennent concrètement? C'est quoi leur programme d'action?
Ils reposent sur trois piliers, qui se complètent. D'abord, il y a les formations numériques.
Adaptées aux assos, j'imagine.
Oui, pensées spécifiquement pour leurs besoins. Leurs contraintes. L'accent est mis sur le transfert de compétences pour l'autonomie à long terme.
D'accord. Premier pilier, formation. Le deuxième.
Le deuxième, ce sont les solutions open source elles-mêmes. Soit ils adaptent des outils qui existent déjà, soit ils développent des solutions sur mesure. Toujours dans l'idée d'offrir des fonctionnalités utiles à un coût abordable, grâce à l'open source.
Logique. Et le troisième pilier ?
C'est cet accompagnement continu dont on parlait. C'est ça qui doit assurer que les projets ne meurent pas après le lancement.
Qu'ils vivent et évoluent avec l'association. Une sorte de filet de sécurité technique et humain.
Exactement.
C'est bien pensé. Mais bon, le mieux pour comprendre l'impact, c'est souvent de regarder des exemples concrets, non ?
Oui, et ils montrent bien la diversité de ce qu'ils font. On pourrait peut-être les regrouper un peu pour y voir plus clair.
Bonne idée. Quel type d'action voir sortir ?
Il y a clairement un axe fort sur la création de ces plateformes communautaires en ligne, ces fameux espaces de lien social numérique.
Comme pour le CLFSG, c'est ça ? Le Centre de liaison des associations féminines genevoises ?
Oui, exactement. Pour elle, le réseau a mis en place femmesdegenève.ch. L'objectif affiché, c'est de faciliter les échanges, de renforcer les liens entre les femmes engagées à Genève.
Et elle parle aussi de souveraineté numérique locale.
Oui, garder le contrôle sur leur espace d'échange. On retrouve un peu la même démarche avec le projet Seigneur et Alors.
Ah oui.
Là, c'est la plateforme seniorsetalors.ch qui a été créée pour les aînés genevois, pour briser un peu l'isolement après la retraite, permettre le partage d'expériences, valoriser les compétences des seniors.
Et dans ces deux cas, on voit bien l'application de cette philosophie de réseau social éthique, sans profilage, sans les algos invasifs.
C'est ça. C'est l'idée mise en pratique.
D'accord. Donc ça, c'est un premier type d'action. Quoi d'autre ?
Il y a aussi des interventions plus orientées vers l'amélioration de la communication et de la gestion interne des associations. Des choses plus pragmatiques, peut-être.
Comme pour la maison de quartier de Plainpalais à Genève.
Oui, bon exemple. Pour eux, l'aide a été double. D'un côté, créer un site vitrine quartier125.ch pour mieux communiquer sur leurs activités.
Classique, mais essentiel.
Et de l'autre, un outil plus spécifique, quartier1205.ch, club web, pour gérer en ligne les demandes de location de leur salle. Ça simplifie un processus administratif bien concret.
Je vois. Ça doit leur faire gagner du temps.
Probablement. Et dans la même veine, il y a l'exemple d'un club d'aînés de Genève. Pour eux, ils ont développé des outils de gestion simples sous le nom seniorsetalors.ch, club web.
Et le but, c'était quoi ?
Améliorer la com entre les membres et donner plus de visibilité aux activités du club. Des besoins très basiques, mais important pour la vie de l'asso.
Tout à fait. Donc, plateforme communautaire, outils de gestion, il y a un troisième type d'intervention.
Oui, on pourrait dire le soutien à des communautés spécifiques ou à des événements.
Ah, comme l'exemple de Jean-Luc, le passionné de voile sur le Léman.
Exactement. Pour lui et sa communauté de navigateurs, le réseau a développé shipshare.ch, une plateforme pour échanger des conseils, organiser des sorties, partager des expériences de navigation. Un vrai réseau de niche.
Sympa.
Ou encore, autre exemple, le soutien apporté à l'organisation du sommet pour une IA inclusive, prévu pour 2024-2025.
Là, c'est plus pointu comme sujet.
Oui. Le réseau a fourni l'infrastructure technique, les outils de coordination via le site iasommetcitoyens.ch. Et ce qui est intéressant, c'est que le témoignage de l'organisation souligne pas seulement l'aide pratique, mais aussi l'alignement sur les valeurs.
Les valeurs d'une technologie éthique accessible.
C'est ça. Ça montre une cohérence dans la démarche de cybervolontaire.net, même sur des sujets comme l'IA.
Ce qui est frappant dans tous ces exemples, c'est vrai, c'est la diversité des besoins couverts. Ça va du lien social pur à la gestion très quotidienne, en passant par le soutien à des passions ou des événements thématiques.
Oui, et le fil conducteur, ça reste cet accompagnement d'acteurs locaux, avec des solutions numériques adaptées, souvent open source.
Et avec cette attention particulière portée à l'humain derrière l'écran.
Voilà. Et ça nous ramène à cette philosophie de l'open source. On a parlé d'indépendance, d'adaptabilité. Mais concrètement, pour une petite asso au jour le jour. Quels sont les autres avantages par rapport à une solution propriétaire classique ?
Au-delà de l'absence de coût de licence qui pèse lourd, l'open source, ça veut souvent dire accéder à une communauté.
Une communauté d'utilisateurs, de développeurs ?
Oui, et ça peut se traduire par du support, du partage de bonnes pratiques, et aussi une certaine pérennité qui ne dépend pas de la stratégie commerciale d'une seule boîte.
Ah oui, si le prestataire initial disparaît, l'outil peut continuer à vivre et évoluer.
C'est ça. C'est une forme de résilience technologique, si on veut.
Intéressant. Et sur ces réseaux sociaux centrés sur l'humain, en pratique, pour quelqu'un qui utilise femmedegenève.ch ou senioretalors.ch, ça change quoi concrètement de ne pas avoir d'algo ou de profilage par rapport à Facebook ou Instagram, par exemple ?
L'expérience utilisateur doit être assez différente, j'imagine. Sans algorithme de recommandation, le fil d'actualité est sans doute moins optimisé pour te garder scotché à l'écran. Il est peut-être plus chronologique ou thématique, basé sur les vraies interactions du groupe. Moins de risques de bulles de filtre, en théorie.
D'accord. Et l'absence de profilage ?
Ça veut dire qu'on ne devrait pas voir de publicité ciblée basée sur ces discussions ou ces clics dans la plateforme. L'environnement se veut plus serein, quoi. Moins marchandisé.
Donc le focus est vraiment mis sur la qualité des échanges et le respect de la vie privée, tels qu'ils les définissent eux, plutôt que sur la maximisation de l'engagement ou la monétisation des données.
C'est ça. C'est une proposition de valeur radicalement différente, en fait. Une vision où la technologie est vraiment juste un outil au service d'un projet social ou communautaire.
Sans agenda commercial caché derrière.
Voilà.
Bien sûr, on peut imaginer que ce modèle a aussi ses défis, non ? La dépendance au bénévolat ou à des financements spécifiques.
Oui, probablement.
La nécessité de maintenir ces plateformes sans les moyens des géants du web. Peut-être la difficulté d'atteindre une taille critique d'utilisateurs sans les mécanismes viraux des plateformes commerciaux.
C'est une excellente question. Les sources n'abordent pas directement ces défis, mais oui, ils sont sûrement présents pour ce type de modèle alternatif.
Bon, si on devait résumer les points vraiment clés de cette exploration du réseau cybervolontaire.net, qu'est-ce qu'on retiendrait ?
Alors, je dirais d'abord cette mission claire, l'inclusion numérique du secteur associatif. Ensuite, ce choix fort, à la fois stratégique et philosophique, de l'open source.
Oui, comme moyen privilégié pour garantir l'accessibilité, l'adaptabilité et l'indépendance.
On ajouterait l'importance de l'accompagnement humain, de la formation, pour pas juste livrer des outils, mais vraiment construire de l'autonomie.
Tout à fait. Et puis, bien sûr, cette approche distinctive centrée sur l'humain, surtout dans la conception de leur plateforme de lien social, qui tranche avec les modèles commerciaux.
Le tout illustré par des exemples concrets et variés, qui montrent un impact réel sur le terrain. Que ce soit pour connecter des seniors, soutenir des assos de femmes, optimiser la gestion d'une maison de quartier ou même appuyer des réflexions sur l'IA éthique.
C'est assez complet. Et cette analyse d'une initiative comme cybervolontaire.net, ça soulève peut-être une question plus large, non ? Qui dépasse ce seul réseau ?
Oui, t'as raison. On voit ici un acteur qui promeut activement l'open source, une approche éthique des données, des interactions en ligne. Tout ça pour servir le bien commun, le tissu associatif.
Alors, au-delà de l'aide directe qu'ils apportent, on peut se demander quel rôle plus vaste ces initiatives alternatives pourraient jouer.
Est-ce qu'elles peuvent, à leur échelle, commencer à offrir un contre-modèle crédible face à la domination des grandes plateformes commerciales centralisées ?
Est-ce que c'est une piste pour renforcer pas seulement le lien social local, mais aussi une forme de souveraineté numérique, citoyenne, où les communautés auraient plus de contrôle sur leurs outils, sur leurs données ?
C'est une vraie question, une réflexion qui reste ouverte, je pense. Et elle est essentielle à l'heure où le numérique façonne tellement nos vies et nos sociétés.
Tout à fait.
Bon, pour terminer sur une note très pratique, si cette approche intéresse des associations qui chercheraient un accompagnement ou même des personnes qui voudraient contribuer bénévolement, partager leurs compétences numériques...
Le réseau cybervolontaire.net peut être en contacté, oui. Les coordonnées qu'ils donnent pour leur section francophone en Suisse, c'est contact@cybervolontaire.net.
Et le numéro de téléphone, +41 79 276 23 68.
Il y a aussi une adresse postale mentionnée, 3C Chemin de Garmaïs, 1251 J à Genève.
Parfait, voilà qui conclut notre exploration du jour. Merci de nous avoir suivis.
Merci.